Bonjour et bienvenue à cette balado diffusion Dialogue Fidelity, une fenêtre sur le monde de l'investissement pour vous aider à rester à l'avant-garde, offerte par Fidelity Investments Canada. Dans la balado diffusion d'aujourd'hui, nous retrouvons Patrice Quirion, gestionnaire de portefeuille, qui vous présente sa séance enregistrée lors d'un récent événement destiné aux conseillers qui s'est tenu à Québec. Monsieur Quirion s'entretient avec Charles Dany, vice-président régional des ventes au Québec et dans l'Est du Canada, et explique qu'il cherche à trouver des titres de qualité à un prix raisonnable pour ses portefeuilles. Monsieur Quirion gère les fonds Fidelity Actions Mondiales Concentrées et Actions Internationales Concentrées, ainsi que quelques mandats privés pour le compte des investisseurs canadiens. Les fonds de Monsieur Quirion sont concentrés et diversifiés dans plusieurs secteurs du marché. Aujourd'hui, il nous explique comment il choisit les entreprises à inclure dans son portefeuille et pourquoi il pense qu'elles ont le potentiel d'afficher une croissance des bénéfices prévisible et durable. Il fait également des commentaires sur les marchés agités que nous avons connus en 2022 et sur les occasions qu'il entrevoit maintenant et dans l'avenir. Cette balado-diffusion a été enregistrée le 3 novembre 2022 et comme il s'agissait d'un événement en direct, quelques diapositives ont été présentées au public. Nous espérons que cet épisode vous plaira. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidelity Investments Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidelity n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions.
Quel est ton état d'âme de ce temps-ci comme gestionnaire quand tu vois ce qui se passe? Où est-ce que ta tête va? Puis comment tu fais pour intégrer ça dans ton portefeuille?
Non, c'est une bonne question. Puis je pense que c'est une question qu'il faut tous garder en tête quand vous parlez avec vos clients. Il y a énormément d'incertitudes. On a passé à travers les quelques dernières années qui sont... Il y a toujours quelque chose qui se passe en quelque part. Mais il semble qu'on a eu une dose un peu plus élevée que la moyenne d'incertitudes géopolitiques, politiques à l'échelle mondiale. Plus toutes les questions, plus macroéconomie. On est dans un marché qui a été très, très mené par des facteurs plus macro, peut-être un petit peu moins par des facteurs de stock picking que ce qui est normalement le cas. Ce que je garde en tête au jour le jour, à chaque matin quand je me lève, quand je rentre au bureau, puis je pense que vous devez communiquer avec vos clients, c'est de garder, il y a un écart, il y a une différence entre essayer de prédire ce que l'économie va faire et de prédire ce que les marchés financiers vont faire. Ces deux, je pense que plusieurs gens ont tendance à lier les deux, qui dans certains cas, c'est important. Mais je pense que c'est important de se rappeler que ce n'est pas toujours d'avoir le bon outlook macro qui va être nécessairement apporter les meilleurs résultats en termes de stock picking, parce que le marché est un mécanisme qui va anticiper beaucoup à l'avance. Les marchés financiers, c'est des marchés qui tolèrent mal l'incertitude. Et ça fait en sorte que la question fondamentale que l'on doit se poser ou que je me pose comme gestionnaire de portefeuille à chaque jour, c'est est-ce que le prix auquel on peut acheter une entreprise, est-ce que c'est attrayant ou non? Parce que je pense que pour investir, on peut être dans, je vais généraliser à un certain degré, mais comme investisseur, on peut regarder les choses de deux façons. Soit qu'on est un investisseur et que l'on voit acheter un titre boursier comme un peu un jeu, a game. Puis c'est d'avoir une opinion sur qu'est-ce qui va se passer demain ou dans un mois. Est-ce que la prochaine donnée que l'on va recevoir sur l'économie ou sur le secteur ou sur l'entreprise va être positive ou négative? Et ces investisseurs-là peuvent devenir, sont habituellement beaucoup plus momentum, sont un peu plus émotionnels. Et ça fait en sorte que l'évaluation et la notion de qu'est-ce que j'achète pour quel prix est un peu oubliée. Ça devient un peu un jeu, si on peut dire. Regardez, il y a des investisseurs qui font très, très bien dans un cadre de référence de la sorte, dont certains à l'interne. Puis je ne veux pas dire qu'on joue loin de là, mais c'est une façon d'investir qui est plus momentum. Je pense que l'autre école dans laquelle on peut se placer comme investisseur, c'est de dire, j'achète pas un titre boursier, j'achète une entreprise. Puis cette entreprise-là, on va penser comme si on n'en achetait pas une petite portion, je sais pas, 1% dans un portefeuille. On va penser comme si on achète 100% de cette entreprise-là, avec un optique de pas essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ou dans un mois ou dans un trimestre, qui est très difficile dans le contexte actuel dans lequel on est. Mais de revenir à dire, est-ce que c'est une entreprise que je serais confortable d'acheter en totalité et de la garder sur les prochaines 10, 20, 30 ans? Et est-ce que le prix à laquelle je peux acheter cette entreprise-là fait du sens? Si on était pour avoir la capacité, si on était multimilliardaire et qu'on devait mettre notre argent en quelque part, qu'est-ce que j'achèterais dans un horizon à beaucoup plus long terme? Et c'est clairement le camp dans lequel je suis comme investisseur. Je dirais pas la totalité, mais la majorité de mes collègues. Donc, quand vous entendez parler de gestionnaire de portefeuille chez Fidelity, c'est habituellement un peu le frame of reference que l'on utilise. Et la raison que je dis tout ça, c'est parce que d'un côté, autant que les prochains 3-6 mois sont incertains, que le timing de beaucoup d'éléments importants qui vont avoir un impact sur les marchés financiers sont difficiles à prédire, mais je pense que là, on prend un peu de recul et qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut acheter des entreprises attrayantes à des prix intéressants sur une base de profitabilité moyenne ou normalisée à long terme? Puis est-ce qu'on a des perspectives de tirer des bons retours d'acheter ces entreprises-là aujourd'hui? C'est vraiment ce que j'essaie de faire au jour le jour. Et je vous dirais que je suis de plus en plus excité parce que pendant de nombreuses années, on va parler de mon style d'investissement un peu plus tard, mais c'était de plus en plus difficile de trouver beaucoup d'options où est-ce qu'on se disait d'acheter une entreprise à un prix X il y a un an ou deux ans. Je pense qu'il y avait plusieurs parties du marché qui étaient très surévaluées de par le fait qu'on venait d'un environnement d'intérêt, de taux d'intérêt à zéro pendant beaucoup trop longtemps, on peut dire. Mais je pense que ce qu'on est en train de passer à travers, puis c'est pas facile, puis regardez, ça n'a pas été facile pour mes produits, entre autres, mais je pense qu'on est en train d'ouvrir la porte à avoir beaucoup plus d'options potentielles où regarder où est-ce qu'on a le potentiel de non seulement aller chercher des retours, là, où est-ce que je dirais dans les dernières années, c'était de plus en plus difficile d'avoir un optique où est-ce qu'on va aller chercher 10, 11, 12 % de retours annualisés à très long terme à acheter une entreprise. Et là, on se retrouve dans une situation que par toute l'incertitude, par le fait que le marché déteste cette incertitude-là, surtout dans certaines parties du monde, là, où est-ce qu'on est un peu plus avancé dans le cycle économique, où est-ce que l'incertitude est plus grande, là, notamment en Europe, en Chine, pour nommer deux régions, où est-ce qu'on commence à avoir des opportunités pour des entreprises qui ont le potentiel là, de, pardon pour le terme anglais, là, de compounder ou de livrer des retours annualisés à très long terme, je sais pas, de l'ordre de 11, 12, 13 %, puis en plus de ça, s'exposer éventuellement, puis ça pourrait être plus tôt versus plus tard, on ne le sait pas exactement, mais s'exposer à un potentiel de réévaluation à la hausse sur des multiples qui sont maintenant très déprimés. Et c'est ce que j'essaie vraiment de communiquer et de garder en tête. Et je pense que vous devriez essayer d'apporter cet aspect-là. Parce que Charles et moi, avant cette discussion, on parlait peut-être un de vos challenges, c'est les taux d'intérêt sont plus hauts, peut-être d'aller chercher 4, 5 % sur des produits garantis. Ça a l'air plus intéressant pour vos clients. Mais je pense que c'est aussi important de garder en tête que le coût du capital ou les taux d'intérêt ont un impact sur les anticipations futures de retour dans le marché obligataire et évidemment dans le marché boursier également. C'est un peu ce que j'essaie de vous laisser comme message, là, c'est que je pense qu'après plusieurs années où est-ce que les perspectives de retour, c'était plus, peut-être, disons, 9 % plus ou moins, là, tenez-moi pas coupable d'un chiffre précis, je pense qu'on se dirige dans un environnement où est-ce qu'on peut commencer à trouver de plus en plus d'opportunités, où est-ce que le potentiel est plus élevé que ça à long terme.
Fait que je t'écoute parler, tu es évidemment un stock picker, tu n'es pas un index hugger. Tu choisis 50 titres sur ton univers, c'est quoi? Si tu vends tes deux portefeuilles, tu peux t'en choisir 50 dans des milliers.
Oui, c'est le challenge d'avoir des mandats globaux. C'est aussi l'aspect qui est super stimulant, intéressant de travailler sur des mandats mondiaux. C'est que si on regarde l'univers investissable, on décrit ça par des compagnies qui ont une capitalisation boursière de plus d'un milliard de dollars US à travers la planète, il y en a environ 15 000. Donc, une grosse partie de mon travail, c'est comment est-ce qu'on fait pour éliminer des titres qui ne sont pas d'intérêt, de vraiment centraliser qu'est-ce qui est plus intéressant à long terme, que les aspects de qualité que l'on recherche. Puis, je dirais une partie de la façon dont j'investis pour éliminer. La première question que je me pose, et je vous encourage de poser ce type de question-là si vous parlez de titres individuels ou de secteurs avec vos clients, je pose toujours la question de quoi est-ce que cette entreprise-là a l'air dans 10 ans? Puis 10 ans, ça pourrait être 15, mais vous comprenez, à long terme. Et la réalité, c'est des 15 000 entreprises à l'échelle de la planète. Il y a beaucoup de secteurs où est-ce qu'on n'a simplement pas une très, très bonne visibilité sur comment est-ce qu'une entreprise va évoluer, comment est-ce que la technologie va changer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent dans les parties du marché où est-ce qu'il y a le plus de changements, ce qui attire beaucoup d'intérêt dans le secteur de la technologie, dans le secteur de la biotechnologie, par exemple, où est-ce que ça change tellement vite que les gens ont tendance à devenir très excités sur quelque chose qui va bien présentement. On a un peu tendance à oublier que le fait que ça change si vite et que ça va si bien pour une entreprise aujourd'hui, bien, potentiellement que ça peut commencer à changer pour une autre entreprise qui pourrait les déplacer. Tout ça pour dire, je ne touche pas beaucoup à la toute nouvelle technologie où est-ce qu'il y a très, très peu de certitudes sur comment est-ce que tout ça va se dérouler à long terme. Je ne touche pas à la biotechnologie. Je ne touche pas aux entreprises de très basse qualité. Là, pensez, je ne sais pas, les lignes aériennes, par exemple. Je ne touche pas sur les secteurs où est-ce que structurellement, on a des investisseurs qui sont prêts à accepter des taux de retour plus faibles par une perception que les secteurs sont très stables. Je pense notamment télécommunications, dans l'immobilier,
services publics. Qu'est-ce qui reste, là?
Qu'est-ce qui reste? Il reste mes portefeuilles, c'est beaucoup.
Que t'aimes? Ouais.
Mes portefeuilles, c'est beaucoup de types de services, que ce soit services aux consommateurs, services commerciaux, de l'industriel, consommation, soins de santé, technologie, mais technologie un peu plate, si on peut dire. Pas des entreprises qui croient à 40 % par année, des entreprises qui croient autour de, je ne sais pas, entre 5 et 10 % par année. Et je vais être quand même très flexible à travers tout ça. Peut-être pour vous donner un peu de perspective, comme investisseur, je suis avant tout un contrarien. Je suis fermement dans le camp où est-ce que je crois en deux choses. Je crois que directionnellement, le marché est incroyablement efficace. Ça arrive pratiquement jamais qu'un titre est à la hausse et qu'il devrait être à la baisse. Le marché a raison. Mais de deux, le marché a tendance à surréagir quand il y a des tendances qui deviennent établies, qui perdurent depuis quelque temps. On peut débattre qu'est-ce que quelques temps ça veut dire. Ça ne veut pas dire deux semaines. Ça veut dire quelques trimestres, quelques années dans certains cas. Ou est-ce qu'il y a une perception qui devient de plus en plus consensus, qui fait en sorte que soit qu'il y a de plus en plus de capital qui est attiré vers une partie du marché ou de plus en plus de capital qui délaisse une autre partie du marché. Et je crois fermement que ces tendances-là mènent à des surréactions du marché, ce qui fait en sorte que l'opportunité que ça l'entraîne, c'est, je crois, comme contrarien, c'est de, une fois que le sentiment est très négatif, que ça a été très bien apprécié, que ça devient un sujet de discussion que peu de gens s'opposent, ça crée des opportunités parce que les titres sont devenus trop escomptés. Et pour les investisseurs plus patients qui croient sur une base de normalisation, ça crée une opportunité de dire, je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, ma plus grande surpondération géographique, c'est en Europe. Et vous allez me dire, Patrice, tu es fou, tu ne lis pas les nouvelles, il n'y a pas de gaz naturel. Évidemment, on fait notre travail là-dessus. On peut parler de ça plus tard. Mais je pense que vous comprenez probablement le point que j'essaie d'exprimer, c'est que le marché surréagit et j'essaie d'en prendre avantage, d'aller dans ces géographies-là, dans ces secteurs-là. Des fois, c'est propre à une entreprise où quelque chose s'est mal déroulé. Et d'en prendre avantage. Et par-dessus ça, je l'apporte une optique d'acheter des entreprises de plus haute qualité dans ce pays-là ou dans ce secteur-là pour faire en sorte que time is on our side. Parce que le plus grand risque d'investir sur une base contrarienne, c'est qu'est-ce qui arrive si on a tort et qu'est-ce qui arrive si ça prend plus de temps que prévu pour qu'une situation se résoudre? Évidemment, c'est d'essayer de faire très, très attention de ne pas avoir de perte de capital permanente par une entreprise qui va en faillite ou qui tourne en une situation qui fait des pertes. C'est pour ça que je ne touche pas absolument aux producteurs de commodités, mais je vais jouer ça à travers le supply chain. C'est pour ça que, je sais pas, après COVID, sur une base normalisée, évidemment, tout ce qui était lié à l'industrie du voyage, c'était hyper escompté. C'était très intéressant sur mon point de vue, mais plutôt qu'acheter, je sais pas, j'ai dit une ligne aérienne plutôt que d'acheter des lignes aériennes, j'ai acheté Airbus, parce qu'Airbus a un carnet de commandes de 10 ans, ils vont rester profitables, peu importe. Donc, c'est ma façon d'aller chercher des titres de plus haute qualité dans des secteurs hors de faveur, de mettre le temps de notre côté, d'être plus patient et d'éventuellement le profiter d'une normalisation du sentiment, d'une normalisation de la situation économique, d'une normalisation des profits. Donc, vraiment, mon cadre de référence, là, je pense toujours, c'est quoi la valeur intrinsèque d'un titre à long terme sur une base de profit annuel moyen normalisé à long terme et est-ce que c'est attrayant ou non?
Fait que tu as des modèles pour tout ça, là, évidemment.
C'est beaucoup de travail. Ouais. Pas moi-même, mais on a une équipe de recherche qui est quand même incroyable au sein de Fidélité. C'est un peu le luxe que j'ai de faire ce travail au sein de notre firme plutôt qu'ailleurs. C'est qu'on a des centaines d'analystes à travers la planète qui nous aident à modéliser tout ça, à comprendre ces dynamiques-là, à essayer d'avoir une meilleure perspective de ce qu'une entreprise a l'air dans 10 ans. Et vraiment, ce que j'essaie de rapporter ça, c'est quel est le potentiel de compounding? Donc, c'est quoi ce qu'on appelle le free cash flow yield? Donc, comme si on achète une entreprise, comment est-ce qu'on se fait payer? On se fait payer de deux façons. C'est combien de cash est-ce que l'entreprise génère à chaque année? Puis si on prend ça en pourcentage de la valeur qu'on a investie, c'est ce qu'on appelle le free cash flow yield. Donc, si on prend ce chiffre-là, plus la croissance organique moyenne à long terme du potentiel d'une entreprise, ça va nous donner, c'est quoi le taux de croissance dans la valeur intrinsèque de l'entreprise plus comment est-ce qu'on se fait payer à chaque année. Et j'essaie d'aller chercher des titres où est-ce qu'on on a un potentiel d'aller chercher là, au-delà de 10 % de retour annualisé sur cette forme-là et en plus les acheter sur une base contrarienne où est-ce que le sentiment est très négatif, ce qui fait en sorte que où est-ce que les évaluations sont très basses. Dans mes portefeuilles, là, vous seriez surpris sur le nombre de titres aujourd'hui qui sont là autour de 6, 7, 8 fois les profits. En moyenne, les portefeuilles sont 11 fois les profits. Donc, je pense qu'on a beaucoup de potentiel de re-rating à la hausse là, au cours des prochaines années quand le sentiment de marché change. Et ça va se produire, c'est juste une question de temps. Le sentiment est extrêmement négatif aujourd'hui. Il y a énormément d'emphase sur « what can go wrong ». Il y a très peu d'emphase sur « what can go right ». Je pense qu'il y a beaucoup d'emphase sur qu'est-ce qui se passe là, sur les 3-6 prochains mois. Je pense que souvent, les investisseurs parlent un peu moins aujourd'hui sur quel va être le discours, quels vont être les sujets de discussion dans un an. Et je suis dans le camp que, oui, l'inflation est peut-être structurellement un peu trop haute, mais l'inflation va baisser. Je pense que dans un an, l'économie va avoir ralenti. Donc, le premier réflexe, first degree thinking, c'est ah ben l'économie va avoir ralenti, c'est mauvais, je ne veux rien toucher. Mais en fait, le plus grand point d'inflexion dans les marchés, c'est quand le marché commence à s'en faire sur qu'est-ce qui s'en vient dans le court terme, les choses s'empirent, versus on arrive à un point où est-ce que le marché dit « on est au pire ». Où est-ce qu'on commence à télégraphier, à avoir un peu de visibilité sur, je ne sais pas, dans 3 mois, dans 6 mois, « we'll be at the worst point ». Et soudainement, le marché va dire, ben on est au pire, donc on n'a plus à s'en faire sur les choses qui détériorent. On va commencer à pricer les choses qui retournent à la normale. Et quand on a des gros écarts sur certains titres, certains secteurs, où est-ce qu'il y a des gros potentiels haussiers, sur un changement de perception qui va commencer à, plutôt que le marché qui va évaluer la valeur d'une entreprise dans le creux du cycle, un marché qui va évaluer la valeur d'une entreprise dans un environnement de mi-cycle. Je pense qu'il y a de plus en plus de secteurs intéressants sur ce point de vue-là. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus excité. Et je pense que, contrairement aux dernières années, où est-ce que les seules portions du marché qui étaient vraiment escomptées, selon moi, c'est ce qui était plus cyclique, ou ce qui avait mis beaucoup de temps là, à reprendre du poids de la bête après COVID, soit par des raisons de supply chain dans bien des cas, Mais là, ça commence à être beaucoup plus large. Même en technologie, il commence à avoir des choses intéressantes. Après des années où est-ce que je trouvais rien de vraiment intéressant, en termes de géographie, ça s'en vient plus intéressant ou est-ce que c'est un peu moins juste l'Europe qui est escomptée?
J'aimerais ça qu'on en parle de la géographie parce que d'un point de vue très général, le premier 10 ans après 2000, c'était le Canada. Mm-hmm. De 10 à 20, à peu près US. T'as fait, j'ai tellement pris une note là, pendant que tu jasais. Tu parlais de l'Europe. Mm-hmm. Quand est-ce que... Moi, je pense que depuis que je suis dans le business, ça n'a jamais été populaire d'investir en Europe. Est-ce que... Puis là, la devise a mangé une volée. Comment est-ce que tu... Fait que là, est-ce que tu peux nous partager ce que tu vois en Europe présentement puis tes réflexions sur la devise pour un Canadien qui investirait en Europe?
Ouais. Quelques points. Tu as des cycles parce qu'éventuellement, comme je le mentionnais, le marché surréagit. La quantité d'outflow qu'on a vu de l'Europe, le sentiment qui est très, très négatif, surtout depuis l'invasion là, de l'Ukraine par la Russie plus tôt cette année et les peurs sur le gaz naturel au cours de l'hiver, qui en passant, je pense que, je ne peux pas dire assurément, mais je pense que les chances sont très, très élevées que l'Europe va être correcte là, cet hiver. Un petit peu de point d'interrogation pour l'hiver prochain. En tout cas, tout ça pour dire, il y a des cycles. Et il y a des géographies qui, structurellement, sont juste ont de meilleures entreprises. C'est définitivement le cas aux États-Unis, où est-ce que l'entreprise américaine moyenne est mieux gérée, le management est plus aligné, il y a plus d'emphase sur prendre soin des actionnaires plutôt que de prendre soin des gouvernements ou de la population ou des employés. Donc, clairement, le marché américain, structurellement, à long terme, est avantagé, selon moi. Mais l'écart n'est pas très grand. Peut-être que les États-Unis, sur les prochains 10 ou 20 ans, vont être capables de surperformer le reste du monde, je ne sais pas, 1 ou 2 % annualisé de par ces bénéfices-là. Mais les swings à plus court terme sont tellement plus exagérés que ça. Encore une fois, c'est comme un investisseur contrarien qui croit que le marché a tendance à surréagir. J'ai tendance à aller dans les parties du marché où est-ce que ça a surréagi de façon importante. Donc, où est-ce que je suis aujourd'hui? En passant, j'ai eu tort parce que j'y suis depuis quelques années. Surpondération assez importante en Europe. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné, mais pas du tout, là, surtout en début d'année? C'est qu'évidemment, le conflit en Ukraine, c'est beaucoup plus près pour le continent européen que ce que l'on peut ressentir ici. Donc, ça a eu un impact, mais encore une fois, je pense que beaucoup tout ça qui est escompté, plus qu'escompté dans les titres. La deuxième chose que je dirais, c'est de ne pas simplement penser sur qu'est-ce qui se passe localement, parce que la réalité, je pense, la beauté d'investir dans des mandats globaux, c'est que la majorité des grandes entreprises à travers la planète, c'est des multinationales. Donc, Nestlé est basé en Suisse. Nestlé est le leader dans le café ou dans le chocolat ou partout à travers la planète. Je sais pas, j'ai parlé d'Airbus plus tôt. Oui, c'est basé en France, mais Airbus n'a rien à voir avec l'économie européenne. Il y a énormément d'entreprises que c'est des multinationales et qui, dans bien des cas, sont un peu comme attrapées avec les sentiments plus locaux sur les marchés. Et ça crée des opportunités. Ça crée des opportunités sur des disconnects d'évaluation. Ça crée des opportunités sur les devises. Parce que, comme Charles, tu le mentionnais, évidemment, l'euro ou le yen se sont fait vraiment amocher cette année. Mais si, je ne sais pas, dans mes portefeuilles, je tiens, je vais donner deux exemples de compagnies japonaises. Je tiens Komatsu, qui est le compétiteur de Caterpillar. Vous connaissez probablement la marque. Je détiens Bridgestone, le manufacturier de pneus. Et le point commun entre ces deux entreprises-là, c'est que c'est des entreprises japonaises, mais elles sont des entreprises multinationales qui ont des opérations partout à travers le monde. Ils ont une base de coûts au Japon quand même forte, soit parce qu'ils fabriquent l'équipement-là ou tous les sièges sociaux. Ils ont une base de coûts en yen et ils vendent en dollars US. Si on prend l'exemple d'Airbus, encore une fois, base de coûts en France et en Allemagne. Et le secteur de l'aéronautique, c'est 100% vendu en dehors US. Donc, ça crée des opportunités dans des entreprises multinationales qui sont fait escompter et qui vont bénéficier d'une devise faible dans laquelle leur base de coûts est surexposée. Donc, c'est une façon de penser, c'est une façon dans laquelle j'essaie de naviguer beaucoup parce que le marché n'est pas toujours rapide pour reconnaître cela. Je pense que le marché a tendance à être surpris sur l'impact de la devise sur les marges de profit d'entreprises qui sont soit positivement affectées ou négativement affectées. Et c'est quelque chose à quoi garder en tête, surtout dans les... Là, on est dans le cœur de Q3, mais avec Q4, je crois qu'il y a quand même un certain risque que les entreprises américaines vont décevoir. Je pense que sur les revenus, c'est bien compris. Sur les marges, c'est moins bien compris. On pourrait avoir des déceptions. On l'a vu là, dans le secteur de la tech avec les méga caps au cours de la dernière semaine, où est-ce qu'il y a eu des déceptions sur l'impact des taux des devises. Je pense qu'on va voir l'effet inverse là, dans d'autres parties du monde. Donc, je crois personnellement que les opportunités à l'international sont de plus en plus intéressantes. Et c'est là que le portefeuille est basé, de plus en plus.
J'ai pris une note aussi tout à l'heure, tu m'as fait rire, quand je vais au bureau le matin. Tu es à Toronto, mais toi, tu trades la nuit aussi.
Pas toute la nuit.
Non, mais les marchés sont ouverts très souvent quand tu es supposé de faire des petits dodos. Tu vas au bureau de Toronto quand même assez souvent. Est-ce que tu pourrais nous reparler maintenant, post-COVID, comment est-ce que tu anticipes aller voir tes management teams? Mm-hmm. Je pense que tu es reconnu dans l'équipe comme un grand voyageur.
Un peu moins dans les dernières années. Mais ça recommence. En fait, samedi, je m'en vais en Europe. J'y passe 2 semaines. Deux conférences, certaines des grandes conférences en Europe, 2 secteurs différents. Et de façon importante aussi, passer 5-6 jours dans notre bureau à Londres, à m'asseoir avec nos coéquipiers, nos analystes, les gestionnaires portefeuille qui gèrent les fonds européens ou les fonds du UK. On a énormément de connaissances, d'experts sur certains marchés, sur certains secteurs à long terme au sein de l'entreprise. Et on a dû s'adapter au cours de COVID, beaucoup plus de Zoom, comme tu as mentionné plus tôt. Ça s'applique à vous, à nos équipes de vente, mais ça s'applique beaucoup à nous également. Et honnêtement, je pense que c'est bienvenu d'avoir l'opportunité là, de se remettre à voyager à nouveau, de s'asseoir face à face. Puis, regardez, autant que comme gestionnaire, on a quand même on a un peu un droit de veto à la fin de la journée sur ce que l'on fait dans les portefeuilles, mais tout l'impact de la recherche, toutes les connaissances que l'on a à l'interne, c'est vraiment à moi et à mes collègues, comme gestionnaire portefeuille, d'aller « tap into it ». Puis de voyager, de rencontrer des entreprises, de rencontrer nos analystes.
Est-ce que c'est une grosse différence de voir les gens live pour pouvoir porter jugement sur la qualité de l'équipe de gestion? Ou est-ce que c'est peut-être plus des émotions que tu ressens, mais quand même?
Ouais, non, la dynamique de rencontrer des entreprises a quand même changé passablement dans un monde virtuel. Ou est-ce que, évidemment, dans une rencontre sur Zoom de, je sais pas, 1 heure, c'est vraiment, ça suit l'agenda, c'est plus rigide. Tandis que si on se rencontre à une conférence où ils viennent nous voir à nos bureaux, en passant, le poids de fidélité est très important à ça. Vous seriez surpris le nombre d'entreprises qui passent à nos bureaux à Toronto ou à travers le monde à chaque jour. On attire beaucoup des équipes de management qui veulent nous informer sur comment les choses vont de leur côté. On veut savoir sur les grandes questions, quelle est leur perception. Mais quand c'est un peu moins, un peu restreint à une rencontre sur Zoom, il y a toutes les discussions. Je ne sais pas, je vais marcher avec le CEO d'une entreprise, je vais l'escorter aux ascenseurs ou à leur voiture ou à une conférence, on va se voir dans le lobby de l'hôtel ou quoi que ce soit. Puis c'est souvent là qu'on a comme des discussions qui vont nous dire un petit peu plus, peut-être ce qui est un peu moins sur le script de ce qu'ils veulent laisser, peut-être une opinion un peu plus ouvert. Mais où est-ce que ça a le plus grand écart? C'est parce que dans bien des cas, quand on rencontre une entreprise, les gestionnaires portefeuille qui sont intéressés vont y aller, mais les analystes ou l'analyste en charge de la couverture de l'entreprise à l'interne va évidemment être dans la rencontre. Et c'est qu'il y a tout cet aspect-là de discussion comme peut-être un peu plus informel avant et après la rencontre, que c'est peut-être plus difficile là, d'avoir maintenu au cours des dernières années dans un monde virtuel. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle en tout pour où est-ce qu'on s'en va dans les années à venir.
Puis si on regarde tes deux portefeuilles, on revient dans ce que tu fais à chaque jour, puis si on regarde ton portefeuille mondial, par exemple, est-ce que tu as des sur- ou sous-pondérations importantes géographiquement?
Oui, géographiquement, on en a parlé. Donc, pour moi, la grande sous-pondération, c'est en Europe, okay. Surtout à travers les multinationales. Donc, pensez,
Tu as nommé quelques noms.
Ouais, j'en ai nommé quelques autres. Ou pour vous donner d'autres idées, là, je sais pas, Siemens en Allemagne, Bayer, je sais pas, dans les pays nordiques, Volvo, pas les voitures, mais l'entreprise, les camions Volvo, qui est clairement le leader mondial dans cela. Où est-ce que j'ai de la présence plus locale en Europe? C'est dans les banques. Et ça, c'est très contrarié. Ça le devient un peu moins présentement parce que, en fait, regardez certains des titres, le marché commence à changer d'opinion des niveaux hyper discontés. Mais j'ai quand même une pondération pas insignificative, là, peut-être une dizaine, 10-12 % du portefeuille mondial dans des banques européennes. Et la thèse, très, très rapidement, de ce côté-là, c'est que les taux d'intérêt, bien, la perception sur les banques européennes, c'est que les retours sont très bas, c'est des très mauvaises business. Regardez, c'est pas 100 % tort, mais ce qui est important de garder en tête, c'est pourquoi. En passant, je pose souvent la question « pourquoi », tellement que mes analystes sont probablement un peu tannés de m'entendre demander pourquoi. Mais la raison principale pourquoi ça a été si pénible pour les banques européennes, c'est que les taux d'intérêt ont été négatifs depuis tellement d'années et ont été à zéro ou très, très faibles depuis là, plus de 10 ans. Et l'impact que ça a sur la profitabilité d'une banque, c'est désastreux. Et là, bien, le côté négatif de l'inflation, c'est l'inflation. Le côté positif, c'est qu'on a des taux d'intérêt plus élevés. Aux États-Unis, ça a été assez bien compris parce que c'était plus tôt. Mais il y a, jusqu'à tout récemment, il y a énormément de skepticism sur la capacité de la Banque centrale européenne d'augmenter les taux d'intérêt. Et comme ils sont en train de le faire, comme le marché obligataire nous dit que les taux d'intérêt en Europe s'en vont vers 3 % l'impact sur les états financiers, sur les, on appelle ça un interest rate spread ou margins, des banques, quand tu passes d'une situation où est-ce que les taux sont zéro, c'est hyper puissant. Et je pense que le marché n'a pas très bien évalué ça et commence à le faire là, avec les chiffres qui commencent à sortir. Et je suis peut-être un peu moins nerveux. On peut parler macro longtemps, mais je m'en fais un peu moins sur ça de quoi la prochaine récession va avoir l'air. Je pense que je suis dans le camp de notre groupe d'allocation d'actifs. Je pense que la prochaine récession est inévitable. Je pense qu'en fait, on est déjà dedans, dans bien des pays, sûrement en Europe, en Chine pratiquement. Mais la grande, grande différence sur comment investir dans une récession, c'est qu'ici, on regarde historiquement pour notre cadre comme professionnel, qu'il n'y a pas beaucoup de gens de 70, 80, 90 ans ici. Je pense qu'on a comme référence des récessions où est-ce que c'était des chocs de demande. Tandis que celle-ci est très différente. La demande est incroyablement forte. On a un choc d'offres. Et ça fait en sorte qu'on a une récession inflationniste. Et ça fait en sorte qu'on a une récession avec un marché de l'emploi qui s'en tire très, très bien. On peut débattre un peu à quel point ça va se détériorer, mais je suis dans le camp où est-ce que le marché de l'emploi va se maintenir très bien. Et ça fait en sorte que, versus une récession plus traditionnelle, un demand shock recession, où est-ce qu'on a de la déflation et un PIB qui ne croît pas, qui fait en sorte que le PIB nominal est en baisse, on est dans un environnement où est-ce que entre COVID et où est-ce qu'on va se retrouver là, dans, disons, un an, on va avoir eu là, une croissance du PIB nominal de 20-25 % peut-être 30 %, avec quelques années d'inflation très élevée, énormément de croissance du PIB au cours des dernières années. Et gardez en tête que si on achète une obligation ou un titre, un CPG, on n'a pas d'upside, mais une entreprise, ça génère des revenus. Ce n'est pas des revenus réels qu'une entreprise génère, c'est des revenus nominaux. Donc, il y a énormément d'entreprises qui, aujourd'hui, on doit s'en faire un peu sur les marges, mais où est-ce qu'ils bénéficient énormément de la croissance des revenus? Regardez, je ne sais pas, je vais donner un exemple qui n'est pas en portefeuille en passant, mais Coke. Coke, je pense que si on avait demandé à qui que ce soit quel est le potentiel de croissance des revenus de Coke, les gens auraient dit 2-3 % par année. Et aujourd'hui, ils ont pris une hausse des prix de comme 15 % parce qu'ils ont le pricing power. Il y a énormément de pricing power, il y a énormément de croissance nominale. Et ça fait en sorte que, oui, les profits vont éventuellement baisser, mais les profits corporatifs à l'échelle de la planète, selon moi, vont baisser d'une base beaucoup plus élevée que l'on croyait parce qu'il y a un effet inflationniste que pour la majorité des entreprises, ont le pricing power pour push it through. Puis, je vais aller sur une autre tangente, si tu me permets, Charles, oui, pendant une seconde. Mon approche, c'est toujours très quand même, focusé, très contrarié, mais sur une base des entreprises de qualité. Et je pense que c'est intéressant ce qui se produit aujourd'hui, où est-ce que la perception de qu'est-ce qui constitue une entreprise de qualité versus non, pour la première fois depuis des décennies, on a la chance de tester c'est quoi le vrai pricing power d'une panoplie d'entreprises. Et si vous me demandez c'est quoi le meilleur signe de qualité d'une business, c'est leur capacité de changer, de s'adapter à une base de coûts inflationnistes et à augmenter les prix, à une structure d'industrie qui leur permet de le faire, une équipe de management qui est focussée sur ça. Et on a des surprises. Il y a énormément de surprises dans le marché aujourd'hui. Où est-ce qu'il y a des titres? Je ne sais pas, je vais donner un sous-secteur en medtech ou en soins de santé, là, sur tout ce qui est plus outils, équipements. Ou est-ce que c'était des entreprises perçues comme ayant des caractéristiques de qualité très, très, très élevées? Et on voit beaucoup d'entreprises manquer parce qu'ils n'ont pas le pricing power, parce qu'ils vendent à des hôpitaux, à des compagnies d'assurance, de soins de santé ou à des gouvernements qui mettent énormément de pression sur les coûts. Et on voit des entreprises qui manquent sur les marges et les titres qui se sont fait ramasser là, de façon assez importante versus un secteur qui était perçu comme un peu blindé là, au cours des plusieurs dernières années. Et sur l'autre côté, on pense à des entreprises plus industrielles que je détiens beaucoup. Là, quelques exemples en portefeuille. En fait, deux qui ont rapporté ce matin, je détiens Parker Hannifin, je tiens une compagnie qui s'appelle ISAB, qui font des outils de l'équipement pour faire de la soudure, qui historiquement sont perçus comme des entreprises de faible qualité. Et où est-ce qu'on a vu au cours de la dernière année, là, ils ont eu la capacité de pousser les prix de façon très, très, très forte, où est-ce que les marges se sont en fait améliorées malgré énormément d'inflation sur leur base de coûts. Donc, tout ça, ça crée des opportunités. C'est le genre de choses que, comme investisseur contrarien, quand tu vois des perceptions de marché qui ne s'alignent peut-être pas tout à fait avec ce que l'on voit ou avec ce qui se risque de se produire dans les années à venir, ça crée des opportunités.
Donc, un optimiste certain en toi, là, de ce temps-ci.
Oui, en étant conscient que la hausse du coût de capital est réelle. Si vous me demandez, regardez, si on s'est rencontrés, puis on ne s'est pas rencontrés beaucoup dans les dernières années, mais j'étais dans le camp où est-ce que les taux d'intérêt à zéro, c'est pas normal, l'inflation à qu'on a de la misère à tenir à 1,5%, c'est pas normal. J'étais dans le camp où est-ce qu'on va voir des surprises à la hausse. J'étais dans le camp où est-ce que l'impact de tout ça va mener à des évaluations plus basses. C'est pour ça que j'ai eu aucune exposition au secteur de la technologie. Ou même dans mon aspect qualité aux entreprises de très, très haute qualité. Là, je ne sais pas, penser à L'Oréal, pour donner un exemple, qui transige à 50 fois les profits pour 4% de croissance annuelle. C'est dur de justifier ça à long terme. Donc, j'ai évité tout ça sur une base... Les risques sont que la perception sur les coûts de capital va augmenter. Je pense que le marché a quand même repricé une grande partie de ça. Il en reste peut-être un peu. Je pense que l'aspect... Où est-ce que je suis un peu en désaccord? Le marché obligataire télégraphie que les taux d'intérêt vont piquer autour de 5% aux États-Unis, mais que par l'année suivante, là, en 2024, les taux d'intérêt vont... Le pivot, là, les taux d'intérêt vont se faire couper d'entre 100 à 125 points de barre. Je ne sais pas où on est après hier. Ça, j'en suis pas certain. Et évidemment, quand l'inflation va piquer et qu'elle va commencer à baisser, je pense que c'est inévitable. Là. On peut débattre si on s'en va à 4 ou à 2, mais je pense qu'on s'en va vers au moins 4 là, au cours des prochains 18 mois. Le marché risque de s'exciter sur « the pivot is coming ». Et tous les titres qui bénéficient là, des titres avec une « long duration », les titres de croissance notamment, je pense qu'on risque d'avoir comme un rebond à la hausse assez fulgurant dans certains de ces titres-là, mais j'ai peur que ça ne soit pas maintenu parce que si l'emploi se maintient, que l'économie n'est pas un désastre comme je crois, puis que le consommateur est en très bonne position là, dans la majorité des pays, peut-être avec l'exception de Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre un peu, mais si on passe en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, les grands pays, le consommateur est en bonne position. C'est une partie du problème sur l'inflation aujourd'hui. Je pense qu'il y a un scénario que très peu de gens discutent aujourd'hui où est-ce que l'économie réussit à ralentir, mais ne pas imploser, que l'emploi se maintient, que les entreprises ne se font pas absolument détruire sur une marge de profitabilité et que le PIB nominal est très bon. ça, si le marché se dirige un peu vers une ligne de pensée de la sorte, j'aurais tendance à croire que, oui, je pense qu'il faut être plus optimiste. Et je suis d'accord, c'est pas pour demain matin. Mais en même temps, si on attend que tout ça devienne le consensus, il va être trop tard. Et je pense que le consensus peut se déplacer vers ça au cours de la prochaine année. Donc, regardez, je suis pleinement investi, mon bêta est assez élevé. Et je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités là, de faire de très bons retours sur une normalisation. Puis regardez, je suis conscient, ça n'a pas été une bonne année dans mes produits, surtout à cause du conflit en Ukraine et mon exposition en Europe. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on a bien fait dans mes produits, c'est sur le après le Brexit, après COVID, on a très, très bien capturé, le surcapturé de façon importante le potentiel à la hausse. Et je pense qu'on n'est pas très loin d'une situation de la sorte. Puis il y a quelque chose, là, on pense, c'est quoi le catalyse? C'est tellement difficile de dire quel est le catalyse, mais je sais pas, pour COVID, ça a été le vaccin de Pfizer qui a comme tout changé là, en novembre, il y a quelques années. Regardez, il pourrait se produire quelque chose avec la Russie et l'Ukraine. Je ne veux pas en faire la prédiction, là, mais si quelque chose se produit, je pense que ça va être l'effet, là, le vaccin de Pfizer, où est-ce que les peurs sur l'inflation vont diminuer de façon importante parce que la prime de risque dans les commodités va changer de direction. L'Europe va se porter énormément mieux. Le sentiment pourrait changer. Je pense que si on a quelque chose de la sorte qui se produit là, au cours des 12-18 prochains mois, les portefeuilles devraient très bien faire.
Patrice Quirion, merci beaucoup pour la discussion.
Merci.
Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidelity. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au Dialogue Fidelity sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix et, si le contenu vous plaît, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour obtenir des renseignements sur les prochaines web émissions en direct, visitez fidelity.ca et suivez Fidelity Canada sur Twitter. Merci encore et au revoir!